Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias. Je m'appelle Steven Jambot. On est ensemble pendant une vingtaine de minutes si vous nous écoutez à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la réalité virtuelle, cette technique qui permet de créer numériquement un monde artificiel. Il peut s'agir d'une reproduction du monde réel et c'est de l'utilisation de la réalité virtuelle dans le documentaire dont on va s'entretenir dans quelques instants avec notre premier invité. Dans la deuxième partie de l'émission, vous entendrez une chercheuse au CNRS sur les impacts environnementaux des technologies du numérique. Elle s'appelle Françoise Berthoux et elle nous expliquera comment faire preuve de sobriété numérique. Mais tout de suite, enfilez vos lunettes de réalité virtuelle et prenons de la hauteur, en parapente, au-dessus de Mossoul, en Irak.
Ce sport, ça représente la liberté. Quand je vole, je m'évade. Je suis totalement ailleurs. J'ai tellement attendu la libération de Mossoul. Et pendant toutes ces années, je n'avais qu'une idée en tête. C'était de retourner voler.
Là, on s'entraîne parce qu'on veut participer au championnat du monde. On espère même qu'il sera organisé en Irak. Dans notre pays, c'est un sport très respecté. Il faut qu'on gagne un prix pour montrer au monde que l'Irak est devenu un pays stable, que les conflits sont derrière nous. Le peuple irakien aime la vie. On aime la paix.
Alors, je suis Chloé Rochereux, je suis la cofondatrice de Targo, je suis journaliste aussi. Et donc, j'ai créé Targo avec mon associé Victor Agulon il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Et on fait des documentaires en réalité virtuelle. Alors, la réalité virtuelle, c'est d'abord une technologie donc qui se consomme dans un casque. Donc, on va mettre un casque qu'on appelle des lunettes de réalité virtuelle, dans lequel, en fait, on va être complètement immergé dans une sphère 360 qui peut être du jeu, qui peut être du documentaire, de la fiction, tout un tas de choses. Donc, la réalité virtuelle, c'est d'abord une technologie. Et nous, on l'utilise pour immerger nos spectateurs dans nos reportages qui sont donc filmés à 360 degrés. Donc, quand on est dans un casque, on voit partout.
Donc en gros, c'est comme un masque de plongée qu'on met sur la tête, on rajoute des écouteurs sur les oreilles et on se retrouve dans un monde réel que vous avez filmé avec du matériel adapté. C'est bien cela ?
Exactement. Nous, on filme vraiment que des images réelles. Tout ce qu'on voit dans le casque sur nos documentaires, ce sont des vraies images qui sont filmées sur place avec une caméra spéciale qui filme à 360 degrés.
Bienvenue en Irak, nous sommes à Mossoul, la grande ville du nord du pays qui a été occupée par le groupe terroriste État islamique pendant 3 ans, entre juin 2014 et juillet 2017. La ville a finalement été reprise par l'armée irakienne au prix d'intenses combats, de milliers de morts et de bombardements massifs de la coalition internationale dont la France fait partie. Mossoul a du mal à se relever parce que la plupart des habitants ne sont toujours pas revenus, mais on va rencontrer ensemble un groupe de mossouliotes épris de liberté, bien décidés à profiter à nouveau de leur vie, et c'est dans les airs que ça se passe.
Alors la grosse actualité de Targo ces jours-ci, c'est un documentaire en réalité virtuelle qui s'appelle Les ailes de Mossoul et qui a été tourné donc en Irak, à Mossoul, deuxième ville d'Irak. Expliquez-nous.
Ouais, alors ce projet a été est né de la collaboration de Targo et de Combini, qui est un média d'information en ligne français qui cible surtout les jeunes. L'idée c'était effectivement de trouver un sujet qui soit intéressant en réalité virtuelle. Donc quand on dit intéressant en réalité virtuelle, c'est que il faut que l'environnement soit assez spectaculaire, qu'il y ait une histoire de fond aussi. Et on s'est mis d'accord effectivement sur ce sujet, les ailes de Mossoul, qui est l'histoire donc d'un petit groupe de parapentistes qui est rescapé de l'État islamique. Et ce petit groupe donc essaye de retrouver tant bien que mal une vie normale à Mossoul, qui est une ville complètement ravagée par les bombardements et les combats. Et donc ce petit groupe reprend le parapente, il recommence à faire ce sport qui était interdit sous l'État islamique. Et c'était effectivement pour nous un moyen de parler de la vie à Mossoul, qui essaye de reprendre tout en gardant un intérêt en réalité virtuelle. Et donc effectivement c'est assez impressionnant de voir les ruines de Mossoul en réalité virtuelle, parce que quand on est sur place, c'est vraiment pour le coup à 360 degrés. Les ruines sont partout, c'est complètement dévasté. Il faut s'imaginer que c'est l'équivalent de la moitié de Paris presque qui est ravagée partout. Et l'ampleur de ces ruines-là, moi, quand je les regarde sur mon téléphone en 2D, j'arrive pas à les saisir, j'arrive pas à les faire comprendre aux gens. Et quand on met le casque, quand on leur met le casque et ce qu'on a filmé là-bas, c'est tout de suite évident de voir l'ampleur de ces destructions. Donc là, la technologie était vraiment adaptée pour ce sujet.
Alors ce documentaire, il est également incarné par la personnalité d'un journaliste qui s'appelle Hugo Clément et que l'on voit à l'image et qui donc nous guide. Et donc la narration ne se fait pas seulement sous forme de voix off, ou ce n'est pas non plus un documentaire sans commentaire. Il y a une personne qui est active de ce documentaire, c'est ça?
Ouais, c'est complètement ça. L'idée, c'était de pouvoir l'incarner, d'une part parce que c'est difficile, c'est assez brutal d'arriver dans les ruines de Mossoul comme ça, et c'était important d'avoir une sorte d'intermédiaire entre le spectateur et ce terrain post-guerre. Donc c'est un moyen de rentrer dans ce sujet, et puis c'est aussi un moyen, dans la réalité virtuelle, de guider, de rendre la lecture plus fluide, parce que l'environnement est à 360, donc ça nous permet aussi de guider le regard. Et enfin, une personnalité comme Hugo Clément, c'était aussi un moyen d'attirer les gens dans la réalité virtuelle. C'est quelqu'un qui est influent sur les réseaux, etc. Et le fait d'avoir des personnalités comme ça, françaises, qui parlent de la réalité virtuelle, qui amènent les gens à en consommer, pour nous, c'est un gros plus, parce qu'on est vraiment dans cette dynamique d'évangéliser au maximum le marché et que les gens connaissent la réalité virtuelle, s'y mettent et la découvrent via ce genre de sujet et des personnalités comme Hugo Clément qui sont influentes sur ce type de problématique.
Donc là, on est sur un sujet qui est journalistique. Est-ce que ça représente le gros des productions actuelles de votre société de production, Targo ?
Ouais, alors nous, on fait exclusivement du documentaire en réalité virtuelle. Au début, Targo a commencé en étant une sorte d'agence de presse en réalité virtuelle. Donc, on réalisait des sujets pour d'autres médias. On a travaillé avec le New York Times, Al Jazeera, USA Today, beaucoup de médias étrangers. Et il y a un peu plus d'un an, Targo s'est lancé en tant que vrai média. Donc tous les mois, on diffuse un documentaire en réalité virtuelle. Ça peut être en coproduction avec d'autres médias ou seulement en tant que Targo. Et donc nos documentaires sont exclusivement journalistiques et sont diffusés sur des plateformes de streaming en réalité virtuelle et dans des salles de réalité virtuelle un peu partout dans le monde. Et c'est effectivement que des sujets qui ne sont pas de la fiction et qui traitent à chaque fois d'un sujet d'actualité.
Justement, en termes de diffusion, Les Ailes de Mossoul n'est pas encore disponible sur les plateformes de streaming en réalité virtuelle en ligne. On peut le voir, pour nos auditeurs parisiens, dans une salle de cinéma dédiée à la réalité virtuelle.
Oui, c'est ça. Le documentaire est donc diffusé en ce moment pendant un mois en réalité virtuelle au MK2VR, qui est une salle dédiée à la réalité virtuelle. Et il sera bientôt disponible sur les plateformes de réalité virtuelle et dans plein d'autres salles qui diffusent ce genre de documentaire en réalité virtuelle.
Donc ces salles, elles ressemblent à quoi ? En gros, ce sont des endroits où on met un casque sur la tête, c'est bien cela ?
C'est tout à fait ça. C'est des salles qui sont en général équipées d'une dizaine de casques et dans lesquels on arrive, on paye un billet comme on paierait un billet de cinéma et on peut faire de la réalité virtuelle pendant 30 minutes, une heure, en fonction de ce qu'on a payé.
Justement, en termes de débouchés et de modèle économique pour Targo, quel est le modèle économique de Targo actuellement ?
Alors, le modèle économique de Targo, il y a plusieurs choses. On vend en fait les droits de diffusion à des arcades comme ça de réalité virtuelle un peu partout dans le monde. Donc, ils vont payer pendant un mois, plusieurs mois ou à la minute le droit d'utiliser nos documentaires dans leur salle. On fait aussi des coproductions avec d'autres médias qui vont, eux, participer à la production. On va aussi aller chercher des sponsors qui viennent sponsoriser un documentaire en particulier. Ça peut être des marques de caméras, des marques d'équipements, ce genre de choses. Et on fait aussi encore un petit peu de marque blanche. Donc là, on produit, on met notre savoir-faire de storytelling en réalité virtuelle au service de marques, d'institutions, d'autres médias. Et on essaye de réduire de plus en plus cette partie pour faire vivre de plus en plus les documentaires de Targo qui sont à mon avis le cœur, enfin qui sont le cœur de ce qu'on fait et qui ont vocation à durer.
Quant à l'accès au grand public, est-ce qu'on sait maintenant combien de personnes en France ou dans le monde sont équipées pour regarder des productions en réalité virtuelle ?
Alors il y a, je crois, 20 millions de casques qui ont été vendus l'année dernière.
À travers le monde.
À travers le monde. Les projections, c'est que le marché va augmenter de 90% tous les ans. Donc il y a toujours ces projections-là qui dessinent les contours d'un marché qui va grossir, etc. Nous, ce qu'on voit vraiment au jour le jour, c'est que ce qui est en train de se dessiner, c'est plutôt que les gens vont consommer de la réalité virtuelle dans ces salles-là. Il y a eu une explosion du marché des salles de réalité virtuelle partout dans le monde. Il y en a à peu près plus de 15 000 aujourd'hui et ça continue de grossir chaque jour. Et en fait, la réalité virtuelle devient plus un moment expérientiel comme le cinéma où on va aller acheter une place et faire une heure, 30 minutes en dehors de la maison plutôt que quelque chose qu'on va consommer sur son canapé le soir en rentrant du travail. Donc c'est plutôt cet usage-là qui est en train de se dessiner, en tout cas qui est la porte d'entrée aujourd'hui du consommateur dans la réalité virtuelle.
Et pourtant, il y a des géants du web comme Facebook et YouTube qui également proposent au moins de voir de la vidéo en 360. C'est déjà un début ?
C'est déjà un début. Nous, ce qu'on voit, c'est que la vidéo en 360 sur les réseaux sociaux est pas quelque chose qui montre vraiment le potentiel de ce média. C'est assez plat. L'immersion est vraiment moindre comparée à celle qu'on pourrait avoir dans un casque. Donc nous, nos expériences, on les pense vraiment pour être vues dans des casques de réalité virtuelle. Effectivement, en 360, YouTube, Facebook proposent de voir ces vidéos-là à plat, mais ces mêmes-là proposent aussi de les voir dans des casques. Donc pour eux, la vidéo 360 est plus un moyen d'entrer dans la réalité virtuelle via ces plateformes-là. Donc YouTube VR existe, Facebook via Oculus Vidéo existe aussi. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ce biais. Et pour eux, la vidéo 360 est plus une porte d'entrée dans la réalité virtuelle qu'un mode de consommation en soi.
Il y a plein de gens qui, quand on leur parle de réalité virtuelle, qui me disent ces gadgets, ce truc, j'ai pas encore compris l'intérêt. Est-ce que vous, qui travaillez au quotidien dedans, c'est quelque chose contre lequel vous luttez et pensez avoir des réponses très concrètes, ou de plus en plus en tout cas?
Complètement, c'est une critique qu'on a souvent. Alors pas sur nos sujets forcément, mais sur la réalité virtuelle en général. En fait, la réalité virtuelle est vraiment née avec cette espèce d'euphorie où tout le monde s'est dit c'est le futur, il faut absolument en faire. Et beaucoup de gens ont créé du contenu qui n'était pas forcément intéressant ou natif pensé vraiment pour ce médium. Et nous, l'idée, c'est vraiment d'inverser cette tendance et de créer du contenu qui est pensé pour la réalité virtuelle, comme on pense une vidéo verticale pour du mobile et pas pour de la télévision. Donc il faut vraiment penser natif, créer des formats qui sont adaptés à ce médium, et c'est que comme ça qu'on prouvera l'intérêt de ce format-là. Et je pense que la raison pour laquelle cette réputation s'est construite, c'est avant tout parce que on n'avait pas encore trouvé ces formats natifs, et que les créateurs de contenu en VR étaient pas encore suffisamment armés pour penser ces formats-là. Donc nous, on inverse cette tendance. À chaque documentaire, vraiment, nos documentaires sont pensés pour la VR, et on a cette force de ne faire que ça, que de la réalité virtuelle. Donc on peut se permettre de tester des choses, d'aller encore plus loin dans le storytelling. Et aujourd'hui, rien n'est écrit, et tous les jours, on découvre des choses encore, on invente des choses en réalité virtuelle. Donc tout est encore à faire, mais de plus en plus, ces formats-là se dessinent. Et c'est la clé pour pas tomber dans le format gadget, c'est vraiment de penser natif.
Et donc vous y croyez, et il y a une partie de l'équipe de Targo qui est autour de nous bien silencieuse. Combien de personnes actuellement travaillent justement chez Targo ?
Donc on est une équipe de 6 personnes. Il y a 3 journalistes réalité virtuelle qui font aussi de la post-production, de l'écriture, etc. On a un designer 3D qui fait donc de la 3D dans nos reportages. Et donc un business developer qui aide mon associé Victor, qui est lui aussi sur le développement business, à distribuer les contenus, à faire vivre les documentaires Targo à travers le monde, donc plus sur de la distribution et tous ces problématiques de sponsoring, de licensing, etc.
Quels sont les projets à suivre de Targo dont vous pouvez nous parler ?
Donc le prochain documentaire, il va y avoir effectivement la sortie grand public de Mossoul. Le prochain documentaire qu'on va sortir, c'est une coproduction avec Ushuaïa qui raconte l'histoire de Mathieu Torder, qui est un explorateur qui a traversé le pôle sud, qui a rallié donc tout seul à ski en autonomie le pôle sud en Antarctique en 50 jours. Et donc on l'a formé pendant plusieurs mois à la réalité virtuelle et il a embarqué avec lui des caméras de Targo. Et donc on va pouvoir suivre son expédition vraiment en immersion avec lui dans sa tente, sur le traîneau, à ski, au milieu de l'Antarctique, cette expédition-là qui était assez incroyable. Et donc ça sortira au mois de juin, en coproduction avec Ushuaïa, sur les plateformes, dans des salles et un peu partout.
Merci beaucoup, Chloé Rocheuil.
Merci, Steven.
Et je rappelle que Les Ailes de Mossoul, donc votre documentaire en réalité virtuelle coproduit avec Combini, est actuellement diffusé dans une salle parisienne au MK2VR et sera prochainement disponible sur les plateformes. Pour plus d'informations sur Targo, rendez-vous sur targostories.com. À bientôt.
Merci, à bientôt.
RFI.
Avant de poursuivre, je ne peux pas ne pas parler de ce qu'il se passe actuellement en France. Au cours des précédentes émissions, j'ai évoqué les convocations de plusieurs journalistes par les services de renseignement français. Depuis cette semaine, nous en sommes à 8. 8 journalistes, ainsi que le président du directoire du journal Le Monde. Au total, 9 personnes du monde des médias qui ont été ou vont être convoquées par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Ils sont soupçonnés d'atteinte au secret de la défense nationale dans le cadre de 2 enquêtes distinctes. L'une porte sur les armes françaises utilisées dans la guerre au Yémen. L'autre sur les ramifications de l'affaire Benalla, du nom de cet ancien employé de l'Élysée en charge de la sécurité du président Emmanuel Macron. Des dizaines de rédactions et plusieurs syndicats de journalistes dénoncent ces convocations de journalistes. Le gouvernement français estime pour sa part qu'il y a, je cite, des secrets qu'on doit protéger. Tout cela pose tout de même sérieusement question. J'oserais même dire que c'est très inquiétant. Nous ne manquerons pas d'y revenir dans une prochaine émission. Et puis sachez que RFI et 4 autres médias ont été récompensés cette semaine par une ONG américaine, l'Investigative Reporters and Editors, pour les Congo Files. Les Congo Files, c'est une enquête relative à l'assassinat de 2 experts de l'ONU en République démocratique du Congo en mars 2017. Le Monde, Foreign Policy, Süddeutsche Zeitung, la télévision suédoise SVT et RFI, en la personne de notre consoeur du service Afrique, Sonia Rollet, ont enquêté sur les pistes et sur les multiples entraves que les policiers des Nations Unies ont rencontrées sur place pendant leurs investigations entre mars 2017 et septembre 2018. RFI, qui a commencé son enquête dès le lendemain du crime, se réjouit de voir récompenser ce travail d'investigation sur un double assassinat aux multiples zones d'ombre.
http://atelier.rfi.fr.
Envoyer un mail, acheter un smartphone dernier cri ou sauvegarder sur le cloud les photos que l'on prend avec ce même smartphone est source de pollution. Françoise Berthoux est chercheuse au CNRS. Elle étudie les impacts environnementaux des technologies du numérique. Camille Sarrazin l'a rencontrée pour l'atelier des médias.
Alors les impacts environnementaux du numérique, ils sont de différents ordres. Il y a des impacts qui sont liés aux pollutions, qui sont générées par la fabrication, enfin déjà l'extraction des métaux, puis la fabrication, l'utilisation et puis le recyclage des équipements. Et puis cette pollution, elle a 2 formes. Hein. Il y a les gaz à effet de serre qui participent au réchauffement climatique et qui sont, eux, liés à l'utilisation d'énergie pour faire tout ça. C'est très énergivore, toutes ces technologies. Et puis, il y a des polluants qui sont plus des polluants chimiques, des métaux lourds, etc., qui sont relargués dans le sol, dans l'air, dans les eaux, au moment du recyclage ou au moment de la fabrication, de l'extraction des métaux.
Et vous parliez tout à l'heure d'effet rebond. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce que c'est ?
Oui, alors les effets rebonds, donc c'est des effets qui existent déjà pour plein de secteurs, qui sont très connus d'ailleurs, par exemple sur le secteur automobile, où malgré que les véhicules ont leur consommation électrique, leur consommation d'essence qui baisse, en fait, globalement, la consommation d'essence, elle continue d'augmenter. Ça, c'est vraiment le résultat d'un effet rebond. Et on trouve ça assez fréquemment dans le domaine du numérique. Donc, pour prendre peut-être un exemple simple, les écrans. Donc, il y a disons une quinzaine d'années, on avait des écrans cathodiques très lourds qui consommaient beaucoup d'électricité d'ailleurs pendant qu'on les utilisait. Et puis il y a eu ce progrès technologique génial qui a fait des écrans beaucoup plus petits, plats, et qui consomment beaucoup moins d'électricité en phase d'usage. Sauf que qu'est-ce qu'on a vu se développer en fait ? C'est sûr que ces écrans, ils occupaient moins de place et ils consommaient moins quand ils étaient fabriqués de la même taille. Mais maintenant, en fait, ils ont explosé de taille, donc, et en plus, maintenant, on en voit partout. Et du coup, globalement, la consommation de ces écrans-là, elle est plus forte que ce qu'on avait avec les écrans cathodiques. Donc ça, c'est typique, voilà, des effets rebonds. On en voit par rapport aux serveurs qui augmentent, bien que les serveurs deviennent de plus en plus puissants. Vous voyez, par exemple, votre smartphone que vous avez dans la poche, il est beaucoup, beaucoup plus puissant que le premier ordinateur énorme qui existait. Et en dépit de cette puissance qui est beaucoup plus forte, en fait, on utilise toujours plus d'énergie et toujours plus de matériaux.
Donc au lieu de faire des progrès pour consommer moins, on finit par consommer plus.
Exactement, c'est exactement ça.
Et on parle, dans les pollutions qui sont connues, on parle par exemple souvent des data centers, mais il y a d'autres choses, vous avez cité les métaux, qu'est-ce qui pollue vraiment dans notre utilisation quotidienne du numérique ?
Alors dans votre utilisation quotidienne du numérique, ce qui pollue, c'est de fabriquer les équipements. C'est vraiment ce qui a le plus d'impact. C'est de les fabriquer, et du coup pour les fabriquer, il a fallu extraire les métaux. Ça demande beaucoup d'énergie de fabriquer ces équipements. Et donc la conclusion de ça, ce qu'on peut en tirer de cette information, c'est que si vous voulez moins polluer en tant qu'utilisateur, le premier truc à faire, c'est ne pas jeter votre équipement au bout de 2 ans comme c'est fait actuellement pour un smartphone ou 5 ans comme c'est fait actuellement pour un ordinateur portable, mais vraiment essayer de le garder plus longtemps.
Donc c'est vraiment minime, par exemple, de supprimer ses mails. En fait, il faudrait juste ne pas se ruer sur l'iPhone 10.
Alors oui, c'est beaucoup plus efficace de ne pas se ruer sur l'iPhone 10 que de détruire ses mails. Pour autant, il faut quand même penser à éteindre son équipement quand on ne l'utilise pas. C'est bien de prendre l'habitude, une certaine habitude de sobriété en fait. La sobriété, c'est plus un état d'esprit, c'est-à-dire la sobriété, ça s'inscrit partout. C'est quand vous avez besoin d'un stylo, vous en achetez un, vous n'en achetez pas 10. Et quand vous envoyez un mail, vous l'envoyez à la personne qui en a besoin en mettant pas toute la planète en copie. Vous voyez, donc dans le même ordre d'idée, les mails, on les supprime quand on les utilise pas, quand on en a plus besoin. On évite de garder des photos qu'on disant. C'est un truc ça, regardez les photos, c'est assez marrant. J'ai pas pris cet exemple tout à l'heure, mais à l'époque de l'appareil photo argentique, c'est évidemment, vous faisiez pas beaucoup de photos parce que ça coûtait cher de les faire développer, etc. Mais on les a toujours, les photos de nos grands-parents, moi les photos de mes enfants quand ils étaient petits, je peux facilement les voir, ils sont dans mon tiroir, tout ça. Les photos numériques, quand l'appareil photo numérique est sorti, même toujours maintenant, les gens ils font des photos, mais en permanence. En plus avec les smartphones, ça mitraille de partout tellement qu'ils sont même plus au contact de la réalité. Les gens ils ont leur smartphone entre eux et la réalité, parce que ça y va avec les photos. Mais qu'est-ce qu'elles deviennent ces photos ? En fait, combien est-ce qu'il y a de personnes qui pensent à se débarrasser des photos ? En fait, la plupart des photos, elles sont stockées sur le cloud, entre guillemets. C'est-à-dire que là, c'est sur des serveurs, ça va consommer de l'énergie, donc ça va émettre des gaz à effet de serre, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que faire de la sobriété, ça s'applique dans tous ces gestes-là. Et il n'y a rien qui est inutile. La façon qu'on a d'utiliser le numérique aujourd'hui, ça remplit tous les vides de notre vie, tous les micro-temps de notre vie, et ça nous empêche de nous poser et de réfléchir à ce qu'on fait. Et en ça, je pense que ça ne contribue pas, du coup, à réfléchir et à essayer de trouver d'autres pistes pour aller vers la transition écologique. Ce que je pense, c'est que la transition numérique, c'est, enfin, il y a des gens qui associent transition numérique, transition écologique. Pour moi, ça n'a pas à être associé. Peut-être que la transition, peut-être que le numérique, à un moment donné, va permettre une meilleure adaptation, une atténuation des effets, quelque chose. Mais en tout cas, ça va pas être majeur dans le truc. Mais par contre, cet effet-là, où le numérique, il nous encombre la tête, et il accélère tout, ça, c'est des effets qui sont pour moi problématiques et qui doivent être soulignés. Les gens, ils doivent prendre conscience de ça.
C'était Françoise Berthoux, chercheuse au CNRS. J'ai notamment retenu qu'il ne fallait pas changer de téléphone mobile tous les 4 matins et de ne pas mettre tous mes collègues en copie des mails que j'envoie au bureau. Merci à Camille Sarrazin qui a réalisé cet entretien. C'est bientôt la fin de cette émission, l'heure de Mondoblog Audio. Cette semaine, vous allez entendre William Fotso Fonkam. Il vit à Mbalmayo, à 50 km au sud de Yaoundé. Et en écho à la fête nationale du Cameroun, qui avait lieu le 20 mai, il essaye de nous expliquer un sujet sensible qu'il suit depuis longtemps. La crise entre francophones et anglophones qui divise son pays.
Au Cameroun, nous avons 10 régions. 2 régions sont dites anglophones. Et 8 sont francophones. Avant, on avait l'habitude de dire pour se vanter que nous sommes un pays bilingue. Quand on se comparait aux autres pays, on les regardait un peu de haut en disant « Nous, on est bilingue et pas eux. » On s'estimait privilégié d'appartenir à la francophonie et au Commonwealth. Mais on oubliait de dire que ce bilinguisme était fictif. Car en réalité, le bilinguisme n'a jamais vraiment existé au Cameroun. Au fil du temps, et pour des raisons que je suis incapable d'expliquer, un certain nombre de préjugés et de moqueries se sont développés de chaque côté francophone et anglophone, au point où est née l'idée qu'il existerait une façon anglophone de s'habiller, de se coiffer, de parler, de réfléchir. De même qu'il existerait une façon francophone et peu recommandable de vivre en société. Cela a créé une certaine hostilité entre les ressortissants des deux parties du pays. Aujourd'hui, il existe des groupes sécessionnistes et plusieurs mouvements qui se battent dans les deux régions anglophones pour la création d'un État indépendant. Le conflit armé ne cesse de prendre de l'ampleur et la situation est vraiment tendue. Malgré cela, le Cameroun célébrait le 20 mai dernier sa fête nationale, qui est le symbole de l'unité du pays. Mais à cette occasion, beaucoup de Camerounais ont ressenti un certain malaise. Sommes-nous vraiment unis au Cameroun? Disons-le franchement, dans un contexte si tendu, la fête nationale n'a plus vraiment de sens. Des preuves de manque d'unité au Cameroun, il y en a à suffisance. Et autant dire que le problème est loin d'être résolu. Aujourd'hui, il y a urgence, car la crise empire avec le temps. Parfois, je rêve de créer une nouvelle identité pour les Camerounais. Ce serait les Camerounais franglophones. Espérons qu'un jour on y arrive.
Mondoblog.org. C'était le mondoblogueur camerounais William Fotso Fonkam que vous pouvez retrouver sur son blog Le Petit Écolier. Rendez-vous sur mondoblog.org pour réécouter tous les mondoblogs audio diffusés à ce jour. C'est la fin de cette émission que vous pouvez entendre en version longue sur notre podcast. Elle a été préparée avec Camille Sarrazin et Camille Deloche, à la réalisation Simon Decreuse, au micro Steven Jambot. Je vous dis la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio. On parlera notamment d'un podcast original que va bientôt diffuser RFI qui s'intitule Afrofuturisme. D'ici là, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner au podcast de l'Atelier des médias.